Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet.
La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet.
Il y a un an, je vous parlais dans une chronique de la chaîne YouTube « Révisons nos classiques ». Avec Florian, nous avons pu rencontrer Guillaume Benoît, le vidéaste à l'origine de cette chaîne. Au micro de Syllab, il nous parlera de YouTube, de vulgarisation et évidemment de musique classique. Nous accueillons en studio Guillaume Benoît de la chaîne YouTube Révisons nos classiques. Bonjour.
Bonjour.
Alors Révisons nos classiques, c'est une chaîne qui nous parle de musique classique de façon assez originale. Je pense notamment au format principal dans lequel on a régulièrement des passages illustrés par des scènes de vie du compositeur dont tu parles. Mmh. Bah, pourquoi avoir choisi cette façon plutôt peu commune de nous parler de musique classique ?
Déjà parce que ça m'éclate pas mal de faire appel à des comédiens, d'avoir des décors, de beaux costumes et donc de beaux décors aussi. C'est une manière de se faire plaisir pendant les tournages, d'avoir quelque chose qui change un peu du face caméra du youtubeur devant sa bibliothèque et qui fait de la vulgarisation toute banale. Même des très très gros youtubeurs hein, d'ailleurs qui se mettent pas vraiment en danger. C'est une manière de se mettre en danger et puis de réussir, de permettre un peu aux spectateurs de remettre dans un contexte historique aussi un peu plus précisément ce dont on parle. On essaie toujours d'être le plus raccord possible avec des décors d'époque, des costumes qui se rapprochent des photos qu'on voit des compositeurs, des portraits, des gravures, des tableaux, etc. Donc voilà, c'est un petit kiff personnel qui me coûte un peu cher, mais c'est, je trouve que c'est plus agréable et plus marquant dans le sens où j'espère qu'après visionnage, le spectateur va se dire en entendant une musique après, j'ai telle image de Révisons nos classiques dans la tête et je sais que c'était le compositeur.
C'est peut-être un moyen de rendre plus accessible aussi du coup.
Voilà, et puis de donner un autre biais de mémorisation autre que les films ou les publicités où quand on entend la valse des fleurs on se dit pas ah ouais c'est le PQ Lotus ou pas autre marque qu'il faudrait citer pour avoir les trois et la concurrence et puis ça change aussi de la musique des assurances pour Shostakovich.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'organise le tournage d'un gros épisode par exemple, comment tu
ouais.
fais?
Alors pour un révision de classique tout commence par une bonne période de recherche et de recoupage des sources, déjà pour que j'ai un script à peu près clean, script que je retouche et termine souvent dans la nuit avant le tournage. Et pour le tournage, alors je fais appel à tous les contacts que j'ai ou que je peux me faire pendant mes aventures depuis quelques années. Tout simplement, je demande déjà pour les décors, pour essayer de faire en sorte que ça nous coûte rien. Pour les costumes, je fais toujours appel à la même association qui est pas très loin de Cholet, qui est l'association Costumes et Théâtre Saint-Paul-du-Bois, qui a des tarifs très sympas d'ailleurs, beaucoup moins chers que sur Paris pour une qualité de costume assez similaire quand même. Et puis voilà, c'est souvent le système D hein, quand même. On arrive avec Aurélien, on est chargé à bloc, on n'a pas assez de bras pour tout porter tous les deux, mais on se débrouille quand même. Et puis voilà, on met tout en boîte dans la journée et puis on repart comme on est venu.
Comme tu l'as dit, c'est un projet très personnel. Est-ce que c'est pas compliqué de faire appel, de réunir une équipe autour de toi, autour de ce projet ?
C'est compliqué, c'est pour ça qu'on n'est que deux. La plupart du temps, il n'y a que Aurélien, mon chéri Aurélien Leuvenbruck et moi. Moi, je fais tout ce qui est écriture, mise en scène, recherche, documentation, etc. Et lui s'occupe de tout l'aspect technique avec la caméra, le son, les lumières. Quand on a un petit peu de budget, quand on fait une OP sponsorisée, entre guillemets, ou qu'on a un partenaire financier, on fait appel à un ami qui est chef opérateur aussi. Et puis si vraiment c'est l'Eldorado, alors là on appelle quelqu'un pour le son parce que c'est encore notre petit point faible, on entend bien ce qu'on raconte, mais la prise n'est pas toujours parfaite.
Comment tu fais pour garder le contrôle quand même sur un projet qui prend de l'ampleur quand même? T'es très entouré.
Oui.
Donc, comment t'arrives à garder la tête froide, on va dire, et surtout voilà, à tenir les rênes du tournage?
Bah en fait, il y a des moments où je garde pas la tête froide du tout. Il y a des moments où bah déjà ma vie a pas mal changé depuis que je suis à temps plein sur Révision de Classique. Il y a des moments où je décolle un peu les pieds du sol, quoi, à force d'être à des dîners de gala, invité à des opéras, machin, aux Victoires de la Musique Classique, aux cocktails avec les musiciens et tout. Il y a eu une période au début d'année où j'ai pété un peu un câble, je touchais plus le sol et heureusement j'ai un entourage qui est là et qui me dit « Guillaume, oublie pas d'où tu viens quand même ». Et c'est très important et ça m'a fait du bien en fait ce petit coup de moins bien. Ça m'a permis de me reconcentrer un peu sur ce que je faisais, de me réorganiser et de me calmer parce que j'étais tous les jours à Paris, j'en mets plus à Paris que chez moi alors que j'ai toujours refusé la vie parisienne et que j'ai surtout pas envie de vivre là-bas et de vivre comme un Parisien. mais plus tu fréquentes les beaux quartiers et en fait j'étais en train de devenir mon propre ennemi quoi. Je devenais les personnes sur qui je crachais tout le temps en bonne bobo gauchias que je suis. Et donc voilà, heureusement que j'avais mon entourage et je garde le contrôle quand même sur mes productions parce que je délègue rien et que si les personnes avec qui je travaille veulent pas travailler comme je veux, et ben je travaille pas avec. Et voilà, donc c'est mes conditions ou rien. Je me prends pas la tête avec les gens qui veulent imposer leur truc ou qui veulent m'ennuyer, clairement qui me ralentissent. Je les laisse sur le bord de la route parce que quand j'ai commencé, on m'a trop souvent pris pour un panneau publicitaire. Alors que c'est pas le cas, donc les gens qui cherchent que leur intérêt dans une collaboration, c'est pas la peine. Moi je sais où je vais, je sais comment ça va être, à quoi ça va ressembler, donc c'est soit on me fait confiance, soit salut quoi.
Je pense à ta dernière vidéo sur Kubrick, ce qui est différente parce qu'elle parle un peu plus de cinéma. Est-ce que tu as pour projet d'en faire plus des comme ça qui sortent un petit peu de la musique classique en étant toujours rattaché?
Oui, parler de cinéma, c'est une chose qui me plaît beaucoup aussi. Alors je suis pas un expert en cinéma, mais je suis assez cinéphile quand même. Et les compositeurs de musique de film, c'est vraiment mon dada. Moi, j'ai un projet sur Ennio Morricone en ce moment qui est en pleine écriture. Je sais pas quand il aboutira parce que au niveau des deadlines et tout ça, du timing, je suis toujours très très mauvais. Quand j'annonce une date de sortie, c'est souvent un an plus tard. Oui, sortir un petit peu de ce qu'on fait habituellement, ça me fait envie aussi. Faire des projets un peu plus one shot qui s'intègrent pas dans une série, c'est aussi l'assurance de renouveler ce qu'on fait sur la chaîne et puis d'attirer aussi de nouveaux publics régulièrement parce qu'une série, plus elle dure sur YouTube et moins elle est vue en général. Donc faire quelque chose qui sort du cadre habituel, c'est aussi l'assurance de redonner un petit coup de jeune à la chaîne, un nouveau souffle. Et j'espère pouvoir ponctuer la chaîne YouTube de projets de ce genre.
Tu n'as jamais de problème de droit d'auteur?
Alors si, sur chaque vidéo, en fait, j'ai des soucis de droit d'auteur. Il y en a beaucoup qui ont été démonétisés, mais la chance que j'ai, et ça c'est le petit secret de fabrique maintenant de la chaîne, c'est qu'on a sorti en octobre 2018 une compilation avec Warner qui s'appelle Révision de Classique. Et dans notre contrat, alors je ne devrais pas en parler, hein, mais bon, tant pis, j'ai demandé à Warner de whitelister, enfin de lever toutes les revendications liées aux droits d'auteur qu'on a dans les vidéos de Révision de Classique. Ce qui fait qu'en contrepartie, je n'utilise que des morceaux du catalogue Warner et Warner enlève toute revendication concernant les droits et me permet de conserver ma monétisation. Donc ça, c'est hyper agréable en fait parce que je suis Déjà, j'ai accès à un catalogue très qualitatif, parce que j'ai toujours 15 versions différentes pour chaque morceau que je désire, donc je peux choisir celui que je préfère, et surtout, je sais que YouTube va pas me dire, bah non, mais en fait, faut que tu l'enlèves ce morceau, parce que sinon, on t'enlève la monétisation. Donc ça, c'est un vrai confort grâce à Warner qu'on a, et je suis, je pense, un des seuls YouTubeurs à avoir ça, alors que j'ai pas une énorme chaîne, donc c'est un gros kiff.
Justement, la compilation, j'allais y venir, parce que c'est au final le succès de ta chaîne qui t'a permis de pouvoir...
Un succès relatif.
Mais de pouvoir quand même sortir une compile, ce qui n'est pas anodin. Tu peux nous raconter un peu plus en détail comment ça s'est passé ?
Oui, alors c'est très simple, ça va durer 10 secondes. le directeur de Warner m'a appelé, il m'a dit « Hey, tu veux sortir une compile ? » J'ai dit oui, et voilà.
c'est pas venu de toi, c'était pas une envie personnelle.
Non, alors moi j'avais pour projet de sortir quelque chose comme un livre ou un album, un de ces quatre, révisant nos classiques. C'est arrivé plus tôt que prévu, donc c'est assez chouette. En plus, Warner, c'est pas un petit label, c'est vraiment une belle institution. Enfin, c'est Erato en France, Warner Classics. Et oui, c'est eux qui m'ont contacté. Et donc j'étais assez surpris, on s'est rencontrés dans leurs locaux à Paris, il faisait très beau, très chaud d'ailleurs ce jour-là, on était dans la cour intérieure de leurs locaux, et il y a Bertrand Chamaillou qui est arrivé, qui est un super pianiste, qui est venu vers moi directement, qui m'a reconnu avant que je le reconnaisse, ça c'était assez incroyable, et puis deux minutes après, le contrat était sorti, le contrat, les prémices en tout cas du contrat étaient établies, et voilà, on est parti là-dessus. Ensuite, ça a pris 3-4 mois à préparer tout ça, écrire le livret, choisir les morceaux. Et puis après, il y avait la production évidemment des CD. C'est sorti en octobre dernier.
Ok.
Tu es satisfait de la plateforme YouTube, de travailler dessus ? Pour toi, c'est le format que tu recherchais ?
Le format, oui. Enfin, YouTube, c'est très compliqué quand même, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est difficile de se retrouver en avant. Moi je suis pas du tout du genre à forcer l'humour pour plaire ou à faire tout ce qu'il faut pour être en tendance. Faut dire aussi que bon, je parle d'un sujet un peu de niche, hein, la musique classique, ça vient pas de soi-même. Quand on va se balader sur YouTube, on se dit pas tiens, est-ce qu'il y a une émission qui parle de musique classique? Non, pas du tout. Donc j'essaie de faire ce qui me plaît à moi déjà, en espérant que ça plaise aux spectateurs, mais aussi aux autres vulgarisateurs. J'essaie un petit peu de me rapprocher des formules de certains dans la construction. C'est pas toujours simple. Il y en a qui sont des modèles, genre Léo de Dirty Biology. C'est vraiment un exemple à suivre pour tout vulgarisateur en termes d'écriture, de ton, de technique aussi. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai pas du tout ses compétences et son équipe, même si c'est une équipe assez réduite, je crois, pour travailler sur Révisant nos classiques. Mais dans l'esprit, en tout cas, j'essaie de faire des choses qui s'en rapprochent un peu plus. Mon gros souci, c'est d'instaurer des problématiques dans mes vidéos. Moi, je fais souvent de la biographie pure et simple. J'essaie depuis Bizet, donc depuis l'été dernier, d'instaurer quelques problématiques quand même dans mes vidéos et de répondre à des questions vraiment qu'on peut se poser sur certains compositeurs. Et ça me donne aussi un axe de travail différent de ce que je faisais avant. Et maintenant que je suis à temps plein sur cette activité, c'est aussi plus simple pour moi d'essayer d'aller plus loin dans l'écriture. YouTube, j'en suis satisfait parce que c'est très simple, c'est gratuit, c'est accessible à tous et à tout moment, 24 heures sur 24, il n'y a pas de rediffusion ou autre, et voilà. Donc ça, c'est assez satisfaisant, mais après... je ne sais pas si c'est la plateforme idéale pour parler de musique classique, mais en même temps, on a le mérite d'être présent dessus. Et si quelqu'un tombe par hasard sur ce qu'on fait, bah, c'est tant mieux, quoi.
Pour se simplifier la vie, on utilise souvent le terme de musique classique au sens large. Et dans tout ça, on cache plein de choses, en fait, comme la musique baroque, le classicisme pur, mais aussi le romantisme, l'opéra ou encore le répertoire sacré et la musique de chambre. Alors j'imagine que quand j'évoque tous ces termes, vous voyez à peu près de quoi on parle. Mais la musique de chambre est un cas assez particulier. Alors c'est quoi la musique de chambre ?
Est-ce que tu t'es déjà posé la question de la légitimité ? Genre pourquoi moi je parlerais de musique classique plutôt qu'un autre ?
Je me pose pas la question. J'ai pas envie de me la poser parce que c'est là qu'arrivent les doutes après. Et j'ai pas envie d'en avoir. Donc je me remets toujours en question. Et puis je fais toujours revérifier, ou dans la mesure du possible en tout cas, ce que j'écris aux intervenants qu'on a de plus en plus, qui sont musicologues, qui sont spécialistes des compositeurs qu'on aborde, ou à des amis qui sont encore en musicologie. Moi, j'ai fait un cursus musicologie, je suis pas allé très très loin, j'ai fait 2 premières années. Pédagogiquement parlant, ça me plaisait pas du tout, je voulais pas devenir... Moi, je voulais être prof de musique à la base, hein. Je voulais enseigner la musique, je suis un gros baroqueux d'ailleurs, donc j'espérais être intervenant en université aussi sur le baroque. Et arrivé à la fac, je me suis dit non, mais je veux pas devenir ce genre d'enseignant. C'est juste pas possible. C'est du cours magistral. Ça me gonfle. Le prof, il arrive, il débite son truc. Et puis, si t'as pas le temps de noter, tant pis pour toi. À la fin du cours, il s'en va parce qu'il a pas le temps de répondre à tes questions. Parce que lui, évidemment, il habite à Paris, donc il prend son train. C'est juste ultra relou. Enfin, je suis désolé, je dis ça sur une radio basée sur un campus universitaire, mais la fac, c'est nul. Bon. J'ai déménagé sur Rennes, j'ai commencé à travailler dans une radio, et puis plus je passais de top 50 et plus ça me saoulait, et je suis revenu à mes premiers amours qui étaient la musique classique, et j'ai lancé Révision de Classique, et effectivement c'était dans l'optique de parler de musique, mais de manière un peu nouvelle. Alors je suis très académique quand même, hein, dans ce que je fais, hein, mine de rien, c'est pas non plus... C'est pas Dirty Biology, c'est pas Cyrus North, c'est pas Dave Sheck qui parle avec des dessins dans Histoire Brève.
C'est pas non plus télévisuel, hein. On aurait pu tomber dessus, mais ouais, je trouve qu'il y a ce côté internet quand même.
C'est le théâtre.
Ça reste un peu... Oui, c'est ça.
Ouais. Mais j'ai mon ton à moi que je ne trafique pas, en tout cas.
Oui, c'est ça.
J'ai mon accent normand avec les R très, très agressifs. Et puis j'ai un humour un peu pince sans rire qui passerait pas forcément à la télé non plus. Mais moi, après, je suis aussi musicien, donc je sais que j'ai une légitimité au niveau de mon ressenti de la musique. Je comprends la musique, j'arrive à la ressentir, et ce que je cherche, c'est pas tellement à donner beaucoup d'informations, c'est surtout à faire passer l'émotion de la musique au spectateur pour qu'ils comprennent que c'est aussi accessible que n'importe quel autre style, et que la musique classique, c'est pas un style à part de musique, c'est égal à tout le reste. Et c'est là-dessus vraiment que j'ai envie d'insister. Moi, mon but, c'est juste de créer des images qui permettent aux gens de retenir que telle musique, c'est tel compositeur, et pas forcément qu'ils sachent que ça a été composé à telle date, etc. etc. C'est un peu secondaire pour moi, contrairement à ce qu'on voit dans beaucoup d'émissions, justement, qui font beaucoup d'analyses musicales. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Moi, c'est juste ça, vous allez pouvoir l'associer à tel compositeur maintenant, les yeux fermés, et pas juste à un film ou une publicité. La musique classique, en plus, c'est un sujet très compliqué, et les gens ont peur de la musique classique, les gens qui ne la connaissent pas. Ils pensent forcément que c'est un style à part, que c'est compliqué à comprendre, alors que, en fait, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste fermer les yeux, écouter et laisser ton corps s'exprimer. Mais c'est comme ça pour toutes les autres musiques, en fait. Il n'y a rien de différent. Il n'y a pas un écart si incroyable entre Beethoven et Joule, hein. Beethoven, il a composé une symphonie avec 4 notes, la 5e, voilà. Et Joule met plus de notes dans ses compositions, dans ses mélodies. Enfin, mélodies. Il faut coder, mais... Donc voilà, c'est pas si compliqué, et puis on en connaît tous sans forcément le savoir, mais dès qu'on passe un morceau, les gens ils te disent « Ah mais ça c'est Apocalypse Now, ou alors c'est la pub des assurances, c'est le jambon ».
Et fait l'expérience ici.
Voilà, et le but de Révision Classique, c'est juste de permettre aux gens d'avoir de nouvelles images en tête, et de leur faire comprendre que oui, ils connaissent de la musique classique, et qu'en plus ils l'apprécient. Souvent parce qu'ils sont capables de la chanter, de la fredonner, et voilà, ça va pas plus loin que ça.
Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait faire de la vulgarisation, qui hésiterait un petit peu à se lancer dans l'aventure YouTube?
Ouais, si on a envie de se lancer sur YouTube, alors déjà il faut le faire pour soi, pour commencer, et pas dans l'optique de faire des vues ou de faire carrière. Ça peut être une idée qui reste dans un coin de la tête quand même. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas anodin non plus. Je me suis dit, je veux réussir à faire de belles vidéos, et pourquoi pas me faire repérer pour avoir un job, un poste quelque part, un de ces quatre. De là à en vivre aussi vite, en moins de 4 ans, c'était assez inespéré. Mais oui, le fait de pouvoir créer un réseau ensuite et obtenir un poste quelque part, c'était une idée, c'était une ambition. Après, j'ai quand même commencé avec des tout petits moyens et en faisant des vidéos franchement pourries. Mais je les faisais pour moi et parce que ça me faisait kiffer surtout. Et puis, il faut, quand on fait de la vulgarisation, il faut pas hésiter à demander de l'aide aux autres ou aller solliciter des personnes qui ont une légitimité qu'on n'a pas encore au début, et faire relire ses scripts, faire recouper ses sources. Surtout, il faut, quand je commence l'écriture, je vais toujours sur Wikipédia parce que c'est le plus simple, et puis souvent pour la musique classique c'est assez complet et précis. Donc je lis l'article Wikipédia, je le copie-colle, j'enlève tout ce qui ne m'intéresse pas, et ce qui m'intéresse, je vais l'organiser de manière à constituer la base de mon script, et ensuite je vais aller chercher des documentaires, des vidéos, d'autres biographies, etc., etc. Je vais essayer de recouper un maximum tout ce que je vois pour être sûr que c'est précis. Mais Wikipédia, c'est en tout cas le plus simple d'accès pour commencer un script. C'est une mine d'or, il y a souvent des conneries, donc c'est pour ça qu'il faut le recouper quand même, mais ça coûte rien déjà, parce que après, quand je vais acheter une biographie, tout de suite c'est au moins 15 balles, hein. Donc voilà, les vidéos de Lina, les films en location, etc., ça aussi c'est un budget à intégrer dans la préparation d'une vidéo maintenant. Mais voilà, il faut recouper ses sources, il faut solliciter les gens, même des gens qui nous semblent inaccessibles dans le domaine. Si on fait de la science, je sais pas, contacter Hubert Reeves ou Étienne Klein, que sais-je. En plus, c'est souvent des personnes très très à l'écoute des petits nouveaux, et qui comme les vulgarisateurs, ont envie de simplement être là pour être passeurs de savoir. Donc il faut aller vers eux, et il faut pas se poser de questions, en fait. Moi, j'ai commencé mes vidéos, c'était naze, hein, franchement, c'était juste des images avec ma voix qui passait par-dessus. Bah, je les envoyais quand même à des gens, à France Musique, etc. Et puis, mine de rien, ça crée un réseau, et petit à petit, on peut accéder à certains musicologues, on peut, enfin voilà, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, mais tiens, demande à machin, lui, il saura t'orienter vers ça pour tes recherches, etc. Il faut le faire pour soi, et puis se faire plaisir, c'est avant tout. Et surtout, pas hésiter à enfoncer les portes.
Il me semble qu'aujourd'hui, donc le 8 mars où on enregistre, tu sors une vidéo sur Berlioz. Est-ce que tu peux nous en dire un peu, tu peux nous en parler un peu?
Oui, alors Berlioz, effectivement, le 8 mars, ça fait 150 ans qu'il est décédé aujourd'hui, jour où on enregistre l'émission. Et c'est Warner, encore une fois, qui nous a proposé de faire une vidéo sur Berlioz, en apportant un petit soutien financier, dans le sens où ils nous ont offert, à Aurélien et moi, le trajet jusqu'à la Côte-Saint-André en Isère. Donc on a pris le train de Rennes jusqu'à Lyon, ensuite la voiture jusqu'à la Côte-Saint-André, l'hôtel sur place, etc. Donc ça, c'était vraiment un très beau cadeau qu'ils nous ont fait. Ça nous a permis d'aller dans la maison de Berlioz, au musée Berlioz, dans son village natal, où on a rencontré Bruno Messina, qui est un vrai spécialiste du personnage. Il est musicien, ethnomusicologue, donc c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la musique, mais la musique, c'est toujours le reflet d'une société. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié la vie du village de la Côte-Saint-André dans les années 1800, et il en a déduit beaucoup de choses en ce qui concernait la musique d'Hector Berlioz, parce qu'il y a beaucoup de choses, en effet, qui ont été inspirées du folklore local, de ce qui se passait dans la région, etc. Et il a même une théorie sur la symphonie fantastique et la marche au supplice qui coïncide avec une exécution, l'une des dernières exécutions qui avait eu lieu dans la jeunesse de Berlioz. C'est assez phénoménal. Il en parle dans la vidéo, et puis dans pas mal d'interviews qu'il a donné aussi. Tout s'est déroulé vraiment comme sur des roulettes, alors que j'étais pas spécialement convaincu de mon script. Parce que j'ai un petit peu changé la formule, j'ai vraiment pas parlé de sa musique là, ou en tout cas très très peu. Il n'y a pas de passage où il y a des extraits musicaux, il n'y en a pas vraiment. Là, on s'intéressait vraiment à trois axes de la vie de Berlioz: son enfance, ses inventions, parce qu'il a beaucoup apporté à la musique, et c'est lui qui a créé l'orchestre moderne, l'orchestre comme on le connaît aujourd'hui, c'est lui qui a créé les festivals, c'est lui qui a inventé la spatialisation du son, la spectacularisation, les programmes qu'on a maintenant dans chaque concert. C'est Berlioz qui a commencé le premier à faire des œuvres à programme. Et puis le troisième point, c'était l'amour surtout. Ça a été vraiment le moteur tout au long de sa vie, avec trois grands amours. Estelle, qu'il a connue à 12 ans et qui était son premier et dernier amour, qu'il a revu à la toute fin de sa vie. On a monté une scène autour de ça. Il y a eu Harriet Smithson aussi, qui était une chanteuse irlandaise, une comédienne, pardon, irlandaise, qui était géniale dans Shakespeare à l'époque à Paris. Il en est tombé amoureux, il lui a fait la cour pendant 5 ans, et quand il a créé la Symphonie Fantastique pour elle, là, ça y est, elle a accepté de l'épouser. Et puis, il y a eu Marie, sa dernière femme, avec qui il a vécu 20 ans, qui était une relation qui a commencé en parallèle de celle d'Harriet. Il a d'ailleurs dit que sa première femme était morte, alors que pas du tout. Et voilà, on parle de l'amour, et on a fait appel pour ça à Frédéric Baboulaz, qui est le papa de l'internet sur YouTube. Enfin, il faisait des vidéos il y a quelques temps. Oui. On l'a vu dans pas mal de vidéos d'In the Panda ou d'Antoine Daniel.
Fujix Guru.
Oui, Fujix Guru sur Twitter. Et Béatrice Michel, c'est une comédienne qui joue Estelle, donc dans la vidéo. Béatrice, elle a joué avec Bernard Blier dans le film Les Acteurs. Elle a joué avec Mathieu Amalric dans Les Fantômes d'Ismaël de Desplechin. Elle a joué dans Ensemble c'est tout aussi, et dans pas mal de films depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et elle nous a fait ce plaisir, ce cadeau de venir participer à la vidéo pour une toute petite scène. On lui a pris une après-midi et elle était super heureuse de le faire. Et voilà, donc on a vraiment du beau monde. On a Bruno Messina, le musée Berlioz, on a Warner, on a la Fondation Saint-Gerre-Polignac, on a une actrice formidable et Fred qui est un ami. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont fait plaisir dans cette vidéo. Et puis la vie de Berlioz, plus je l'ai découvert et plus je me suis retrouvé un peu dedans. Donc il y a beaucoup de moi en fait dans cette vidéo. Donc je suis très content qu'elle sorte et j'espère qu'elle plaira parce qu'elle change un petit peu des précédentes quand même. Mais
Et c'est ça, être vidéaste sur internet, c'est liberté, rigueur et exigence. On retrouve tout ça sur la chaîne YouTube Révisons nos classiques. Merci Guillaume.
Merci de l'invitation.